Jean chapitre 12, versets 35 et 36, pour commencer, puis on lira un deuxième passage tout à l'heure. Je ne suis pas muté. Alors, je vais me faire muter. Bravo. Allô ? Oui, c'est bon. Verset 35, Jésus leur dit : la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. J'aimerais qu'on aille dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Beaucoup d'autres versets à lire, on va en lire quelques-uns au fur et à mesure, mais Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » Vous avez compris qu'on va parler de marche aujourd'hui. Vous aimez marcher ? La randonnée, hein ? Un kilomètre, deux, après on s'arrête parce qu'on est fatigué. Non ? En marche, oui. Pas de politique ici. La vie chrétienne, c'est une marche. Hein, et cette marche, elle commence à partir du moment qu'on est de nouveau, qu'on devient chrétien, qu'on se convertit. Et elle va s'arrêter le jour de la glorification, c'est-à-dire le jour où on va se retrouver devant Dieu, où on va être transformé et enfin partager l'éternité avec lui. Quelqu'un disait, avoir marché quelqu'un, on connaît sa pensée. Avoir marché quelqu'un, on connaît sa pensée. Notre façon de marcher en tant que chrétien, ben finalement révèle tout simplement la qualité de notre vie spirituelle. Ce n'est pas toujours vrai, mais quand même, globalement, on voit quand même où en est à peu près un chrétien à sa façon de marcher avec le Seigneur. La vie, c'est une longue randonnée, hein, plus ou moins longue pour certains, mais elle n'est pas toujours facile. Et on a besoin de conseils, on a besoin de certains outils. Parce que quand vous partez en marche, vous faites quoi, vous ? Enfin, je parle dans la montagne, hein, pas à un casino ou je sais pas où, là. Hein. Vous prenez quoi ? Une carte, généralement ? Vous avez le GPS maintenant, mais à l'époque... Pardon ?
Des bonnes chaussures,
oui, c'est pas mal, ça j'oublie souvent d'ailleurs. Pardon ?
Une boussole ?
Tu sais utiliser une boussole, toi ? Ouais ? Je veux voir ça ! Ouais, une boussole, oui, bon, au moins quelque chose qui nous guide, hein, un plan, et on a besoin d'outils, hein. On part pas comme ça dans la montagne n'importe comment. Eh bien, la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Dieu nous a laissé des outils, et bien souvent, on les utilise pas, et on part marcher tranquillement sans ces outils. Et j'aimerais justement qu'on voit un peu quelques-uns de ces outils, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et apprendre à marcher avec Jésus-Christ. La première chose qu'il faut faire pour marcher, on a oublié, il faut un éclairage. Parce que s'il commence à faire nuit, vous êtes mal barré. Hein, en plein milieu des Vosges ou dans les Alpes, il fait nuit. Hein. Et les textes nous ont dit quelque chose d'important, c'est qu'autrefois, nous étions ténèbres. Nous marchions dans les ténèbres, dans une route qui était plongée dans les ténèbres. Alors, quand on n'était pas croyant, on ne s'en rendait pas vraiment compte. Mais la Bible nous dit quelque chose de vrai. On était vraiment dans les ténèbres. On vivait selon le monde, peut-être aveugle de toute espérance, et sans espérance évidemment, sans assurance peut-être, et puis à se poser la question, mais où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait là, hein, sur cette terre ? On marchait sans éclairage, et je ne sais pas si vous avez déjà pris le risque un jour de revenir le soir du travail, quand il fait nuit, et de ne pas mettre vos lumières en voiture. Ça m'est arrivé une fois, heureusement que mon directeur il était derrière. Et vous ne voyez rien. Et marcher dans les ténèbres, c'est exactement la même chose. On prend un risque, on marche à l'aveuglette, on ne sait pas où on va, et on risque de se prendre le mur à un moment. Et souvent, on se le prend, hélas. On a besoin de lumière dans notre vie. La seule destination pour ceux qui marchent selon les ténèbres, c'est l'enfer. Et le problème, c'est que les ténèbres dans lesquelles ils marchent voient justement la destination. Ils ne le voient pas. Et beaucoup de gens marchent sans Jésus-Christ parce qu'ils n'en ont pas envie dans leur vie, parce qu'ils ne le connaissent pas, mais ne voient pas aussi la destination. Le diable, lui, il se frotte les mains. Mais eux ne voient rien arriver. Et puis au moment où ça arrive, eh ben, c'est bien souvent trop tard. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas passé là, dans la personne, ou d'une manière ou d'une autre. Hein. On est bien d'accord. Heureusement, Christ a offert sa lumière, et dans Jean 8, verset 12, il est dit, « Jésus lui parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On marchait dans les ténèbres, et heureusement que Jésus-Christ est venu. Parce qu'il aurait pu nous laisser comme ça, hein. Jardin d'Éden, vous ne voulez pas de moi, allez, maintenant vous vous débrouillez, vivez dans vos ténèbres, hein. Voilà, vous n'avez pas voulu de moi. Mais Jésus a accepté de quitter la gloire, sais pas si vous avez été déjà glorieux comme Jésus-Christ, servi par les anges, etc. Hein, sans problème, sans douleur, sans ce corps que nous avons nous aujourd'hui. Lui, il l'a accepté, il est descendu pour justement offrir un éclairage spirituel à tous les hommes. Il est venu pour éclairer sur Dieu, parce qu'on avait une idée de Dieu. La religion a une idée de Dieu, même nous-mêmes, des fois, on a une idée de Dieu qui n'est pas forcément, enfin, qui ne correspond pas à celle que la Bible donne. On avait une idée sur le but de l'homme, mais Christ nous donne le vrai sens de la vie, justement. On a été créé pour l'adorer, pour le servir. Hein. Il nous donne une destination, finalement, il donne un sens à la vie. Heureusement que Jésus-Christ est passé par là, non ? Moi, je serais mort aujourd'hui, hein, certainement. Je me serais suicidé ou je ne sais pas quoi. Mais Jésus-Christ m'a donné un sens à ma vie. Un éclairage sur notre nature, ça on n'aime pas trop au début, mais à force on s'habitue, par le Saint-Esprit justement, il a éclairé notre péché. Moi, pécheur ? Non. Mon voisin, je veux bien, lui il fait du mal, il vole, je sais pas quoi, mais moi, attendez, je travaille tous les jours, je suis fidèle à ma femme, enfin bref, moi pécheur. Et pourtant, à un moment, si on est honnête et qu'on laisse cette lumière vraiment nous éclairer, on se rend compte effectivement qu'on est pécheur. Je sais pas, moi j'aime bien mes fenêtres, des fois quand il fait gris comme ça, vous regardez au travers de la fenêtre, elles sont propres. Par contre, quand il y a le soleil, d'un coup, il y a plein de saleté, en fait. C'est exactement la même chose dans notre cœur. On a l'impression, des fois, d'être pur, d'être parfait. Et finalement, quand il y a l'éclairage de Christ, eh ben, on réalise notre péché, tout simplement. Mais quand on réalise cela, il faut aussi accepter que cet éclairage veut changer ma vie. Dieu ne vient pas simplement pour dire « tu es pécheur » et pour t'accuser. Il dit « accepte-le, mais moi, je vais te changer ta vie. Je veux la transformer, justement. Éloigner tout ce qui te fait mal, parce que souvent... on ne se rend pas compte que le péché nous fait du mal. Hein. Éloignez tout cela. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité et accepter ses erreurs. Vous aimez bien accepter vos erreurs ? On verra la prochaine fois que vous en faites une. Hein. C'est pas toujours simple. Alors quand c'est une erreur, déjà c'est délicat, mais alors quand c'est l'erreur d'une vie, quand, comme moi, j'ai toujours lutté contre Dieu, j'ai dit que Dieu n'existe pas ou j'en veux pas parce que gna gna gna, à un moment, quand on doit s'arrêter et considérer la vérité et la lumière, ça brise le cœur, hein, profondément. Mais ça fait du bien après. Vaut mieux ça que l'enfer, on va dire. La route du chrétien est bien éclairée. Hein. Autrefois, on marchait dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes bien éclairés par le Seigneur et par ce chemin. Dans le psaume 119, 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et j'espère qu'on profite justement de cette lumière. Lire la Bible, ben justement, comme le psalmiste dit, c'est un bon éclairage pour ma vie. Des fois, je cherche des conseils, je cherche le bon itinéraire dans ma vie. Puis j'essaie de le deviner, moi, avec ma pensée, ma logique, mon intelligence, et des fois, ben, tout est là-dedans, tout simplement. Au moins des grands principes, déjà, qui nous permettent d'avancer. Lire la Bible, ça fait du bien, et c'est utile. Hein, c'est utile, c'est pas qu'intellectuel, c'est utile. La Bible dénonce aussi les ténèbres en moi. Hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on lit la Bible, bon, il y a des passages, il y a la guerre, ça va, ça ne me concerne pas, et puis d'un coup, okay, il parle de moi, là. Il parle de mon cœur. Il parle de ma vie en ce moment. Et il dénonce les ténèbres qui sont en moi. Mais si le Seigneur le fait, c'est simplement parce qu'il ne veut pas qu'on se fasse piéger ensuite par le diable et qu'il, lui, va nous enfoncer au maximum. Et puis, une lumière sur mon sentier, ça assure un bon chemin. Ah, j'ai dit, aller dans les Alpes sans lampe de poche, bon, voilà, appelez-moi, hein, on appellera les pompiers, ou je ne sais pas qui on peut appeler, mais vous allez vous perdre à un moment. C'est pareil dans la vie. Sans cette torche ou cette lumière, eh ben, on peut se perdre très rapidement. Et si le Seigneur nous donne sa lumière, c'est justement pour éclairer notre chemin. C'est quand même formidable, non ? Quand on y réfléchit. On aurait pu continuer à marcher dans nos ténèbres tranquillement, mais le Seigneur nous permet d'être conseillé, d'être guidé, et à la croisée des chemins, ben, de faire le bon choix. Formidable. Mais il dit aussi, dans Jean 12, tout à l'heure, qu'on est éclairé pour marcher comme des enfants de lumière. Est-ce que vous brillez, là ? Tu peux éteindre la lumière juste pour voir si on brille ? Est-ce qu'on brille comme des enfants de lumière ? On aime bien la lumière de Christ sur nous. Vas-y, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Mais le Seigneur nous demande aussi de briller. Nous reflétons en fait cette lumière de Christ sur nous pour les autres. Nous sommes des témoins brillants dans tous les sens du mot, hein, autant éclairage, mais brillants dans le sens où on est bon ou gentil avec les autres, témoins de l'exemple de Jésus-Christ. C'est ça être le reflet de Jésus-Christ. Et nous voulons éclairer notre entourage, ben, tout simplement parce qu'on voudrait aussi qu'ils découvrent cette lumière et la joie de connaître le Seigneur. Après, bon... Vous pouvez éclairer, hein, si la personne ne veut pas de votre éclairage ben, de la Bible, ben, tant pis pour lui. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre un jour qui va l'illuminer, j'espère en tout cas. Donc on a besoin d'un éclairage divin, hein, pas juste d'une lumière, mais quelque chose de divin, pour avancer dans notre vie et pour briller dans ce monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour marcher, il faut des bons guides. Bah, aujourd'hui, on a le GPS, hein, c'est très pratique, mais à l'époque, on avait des boussoles, effectivement. Quand j'étais flambeau, alors il y a longtemps, on y allait à la boussole. Je savais le faire, hein, je ne sais pas si je sais encore le faire. On a besoin de guides, on a besoin de guides dans notre vie. Et avant de comment dire, parler du guide, il faut savoir identifier quels sont les bons et les mauvais guides, parce que là, il y en a aussi. Dans 1 Corinthiens 3, 2 à 3, il est dit, « Parce que vous êtes encore charnel, hein, » il s'adresse à l'église de Corinthe, Paul, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Cette église se disait spirituelle, hein, avec tous les dons, là, elle mettait en avant, et au fond, c'était des gens qui étaient complètement charnels. Et vous connaissez l'église des Corinthes, hein, c'est une vraie catastrophe. Enfin, heureusement que Dieu nous a laissé cet exemple. Comme ça, hein, toujours meilleur qu'eux, on va dire. Mais ça veut dire aussi que l'église peut être comme ça, hélas, charnelle. Donc, identifier le mauvais guide, c'est la chair. Hein. Souvent, le chrétien, ce qu'on appelle les chrétiens charnels, ont tendance à marcher sur deux chemins en même temps. Ils veulent bien se laisser guider par le Saint-Esprit, mais en même temps, la chair est là. Et qu'est-ce qu'elle est bonne, la chair, hein. C'est bon, la chair. Arrêtez. On est tous comme ça, sinon on ne pêcherait plus. Je suis désolé. Eh oui. Donc, c'est qu'on aime quelque part. Alors, des fois, c'est plus fort que nous, on va dire, mais si c'est plus fort que nous, c'est que c'est bon, au fond. Je dis ça parce qu'il faut comprendre qu'on aime ça. Si on veut l'arracher de nous, ça ne marchera pas autrement que comprendre qu'on aime ça. Il faut le piger d'abord. Et après, seulement laisser faire le Seigneur. Mais si je veux marcher avec Christ d'un côté et avec ma chair d'un autre, à un moment, vous avez déjà fait le grand écart ? Ça fait mal. Ça fait très mal. Puis les effets d'une telle marche, on l'a vu dans l'église de Corinthe, c'est la dispute. On est spirituel, mais on se dispute. On est spirituel, mais on est jaloux du voisin. Il est plus beau que moi, il chante mieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des rivalités. Moi, je suis du Paul, moi, je suis d'Apollos, dans le livre des Corinthiens. Donc, être charnel, c'est autant donner l'apparence d'être spirituel, mais en même temps être prêt à se battre avec les autres, juste pour son propre orgueil. Quand je vis en chrétien charnel, finalement, je freine ma marche. J'ai l'impression d'avancer avec le Seigneur, mais finalement, je suis vraiment freiné par mon péché et par ma chair. Ça empêche d'avancer et surtout ça empêche de grandir spirituellement. Alors on aimera encore toujours la chair jusqu'au bout, hein, ça je vous garantis, il y aura toujours un parcelle quelque part. Et même dans l'inconscient, hein, le cœur est tortueux par-dessus tout, des fois il agit sans que même nous on comprenne. C'est ça qui est terrible. Mais on peut changer, on peut s'améliorer. Et un chrétien charnel, lui, stagnera spirituellement. Le problème c'est qu'il se prive, lui, de certaines bonnes choses de la part de Dieu, mais le problème c'est que ça a un impact aussi sur les autres. Quand je me dispute, je peux me disputer avec moi-même. Enfin, c'est rare qu'on se dispute avec soi-même. Hein. Vilain, méchant. Hein. C'est généralement vers les autres que ça va. Et quand je suis charnel, forcément, ça a un impact sur l'Église. C'est bien triste. Et dans l'Église de Corinthiens, c'était terrible. Souvent, c'est parce qu'on refuse la nourriture solide. Dans Hébreux 5, 12, hein, vous connaissez le passage, c'est Paul qui, enfin, l'auteur des Hébreux qui dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. On peut connaître beaucoup d'histoires de la Bible, c'est bien, c'est chouette. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Alors quand on parle théologie, tout de suite, ça... Hein, les poils qui hérissent là. On n'aime pas ce mot-là. Mais les rudiments dont parle Paul là, c'est simplement de la connaissance du baptême, la connaissance de Jésus-Christ mort sur la croix, ressuscité. C'est des choses basiques qu'on entend dans l'Église aujourd'hui. C'est ça les rudiments, c'est que la petite base. Et... l'auteur, lui, il veut que vous alliez beaucoup plus loin et qu'on mange du steak. Vous aimez le steak ? Un bon Big Mac, là. Vous avez déjà essayé de nourrir votre enfant tous les jours au lait ? Votre bébé, au début, bon, ça va durer 1 an, 2 ans, je crois. Et après, à 15 ans, avec le biberon, il ne va pas grandir. Il ne va pas grandir. Il n'aura aucune défense immunitaire, etc., etc. Finalement, ce sera comme un chrétien qui se contente tout simplement des choses qu'il a apprises jusqu'à présent, mais qui ne veut pas aller beaucoup plus loin. Et ça aussi, ça a un impact sur l'Église et sur les autres. Refuser de se nourrir de nourriture solide, c'est tout simplement se contenter de ses acquis. Ah voilà, j'ai appris beaucoup de choses à l'école du dimanche, on a appris après pendant un groupe d'ados, ça y est, je sais tout. Et c'est souvent le cas de toute l'Église dans ce monde, hélas. Le Seigneur veut qu'on aille beaucoup plus loin. Et après, le chrétien, il s'étonne qu'avec peu de nourriture, il n'a pas de force. Si vous buvez que du lait tous les jours, hein, c'est bien, vous aurez du calcium, hein, trop peut-être même. Mais il vous faut d'autres choses, il vous faut des vitamines, il vous faut un tas d'autres choses. Et on s'étonne à un moment, j'ai pas de force. Voilà. Forcément, si je ne me nourris pas correctement. Et puis, je ne vais pas grandir. Mais pourquoi je n'avance pas spirituellement ? Qu'est-ce qui se passe ? ben, je ne me nourris pas comme il faut dans ma vie. J'ai besoin de nourriture solide pour grandir, pour avancer et pour marcher. Vous n'êtes jamais parti faire une marche en jeûnant 3 jours avant. Il faudrait être fou. Crois. On a besoin de nourriture pour marcher et pour grandir. Et aujourd'hui, l'Église se contente de peu. Je ne parle pas de notre Église, mais je parle de l'Église générale. Elle se contente de peu. Et quand on regarde l'Église, elle devient de plus en plus fragile. Les loups peuvent rentrer comme ils veulent. On raconte n'importe quoi sur Internet et tout le monde dit « Amen ». Je pense que sur Internet, il y a au moins 90% de l'erreur. Si ce n'est pas plus, hélas. Mais comme nous, on ne se nourrit pas, on préfère se laisser nourrir par les autres. Et finalement, on se fait tromper et avoir n'importe comment. On est des croix faciles. Il y a 2 grands guides par excellence dans la Bible qui sont là. C'est d'abord la parole, et on le répétera, et on le répétera, et on le répétera. Le psaume 23,4, vous connaissez. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es moi, avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et cette parole aussi qui est là derrière, qui me rassure, et qui m'aide à aller de l'avant. Dieu, en fait, veut me faire marcher sur la bonne route. Il ne veut pas qu'on aille s'égarer. Il veut être mon guide. C'est quand même génial, hein ? C'est gratuit encore. Quelqu'un écrivait, John MacArthur, qui est un auteur assez connu, en parlant de l'Église et de sa faillite, il disait « Les problèmes qui surviennent constamment dans l'Église sont dus à l'ignorance. Osée a écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances ». C'est là un vrai problème dans l'Église d'aujourd'hui. Il y a une enquête du magazine Time auprès de membres d'Église qui a révélé que certains croyants croyaient des choses de ce genre. Par exemple, il disait « Sodome et Gomorre étaient des amants ». C'est vrai, c'est authentique. Ils étaient amants. C'est 2 villes. Hein. Enfin, c'est 1 ville même. D'autres disaient « Jésus a été baptisé par Moïse ». Yeah. Ah oui, c'est vrai. Hein. « Ève a été créée d'une pomme ». D'où la pomme d'Adam, c'est du logique. D'autres disaient « Les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luther et Jean ». Luther, c'est un réformateur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou alors « Jézabel était l'âne d'Akab », etc., etc. Voilà l'enquête qu'il a donnée dans l'Église.
Dans l'Église.
La faillite de l'Église, hein, continue l'auteur de dire, ce n'est pas dû à une faiblesse de programme. Ça, on sait le faire, les programmes. Elle est due à une faiblesse d'enseignement. Les Églises proposent beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça bouge, c'est dynamique. Il y a plein de programmes, mais la parole, elle est laissée complètement de côté. On sait chanter, on sait danser, on sait faire tout ça. Mais dans Acte 2, un des 4 piliers de l'Église, c'est être enseigné. Dans la doctrine. Donc, on peut refuser cette nourriture solide, hélas, et l'Église le fait, mais à nous de réagir aussi. Sa parole de Dieu, évidemment, offre de bons panneaux indicateurs, ça offre la bonne direction et surtout le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il veut ? Tiens, petit sondage là dans l'Église des Tréchis. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie ? La sanctification ? Ouais. Qu'on fasse sa volonté, mais c'est quoi sa volonté ? J'aime bien les questions. Qu'est-ce qu'il veut pour vous ? Parce que là, vous allez partir tout à l'heure et vous allez voir. Pardon ? Qu'on soit sauvé, mais nous, on l'est déjà. Après, qu'est-ce qu'il veut ? Le chemin, oui, mais ça, c'est basique, ça, on le sait, c'est le chemin, c'est l'air. C'est quoi concrètement dans votre vie ? Qu'on pêche plus, ça, c'est bon. On va pas y arriver, mais on va essayer. Qu'on le serve, il y a un service. Dieu veut qu'on serve le Seigneur. Comment ? Comment on peut servir Dieu ? Oui, non, là, on tourne en rond, là. Je veux des choses concrètes qu'on peut faire dans l'Église. Oui, vous voulez tous faire la volonté de Dieu, je suis sûr. Mais c'est quoi faire la volonté de Dieu ? Il faut trouver des choses concrètes.
Pardon ?
Dire sa parole, oui.
Prêcher l'Évangile.
Évangéliser. Hein. Se laisser transformer, évangéliser, annoncer, etc., etc. Mais il faut qu'on ait des choses concrètes à mettre en place dans notre vie, parce que c'est bien, on veut faire la volonté de Dieu. Mais si je ne sais pas ce que c'est que la volonté de Dieu, je ne fais pas sa volonté, on est bien d'accord. Et pour savoir ce que veut Dieu, forcément, il faut lire la Bible. Il y a des mini-volontés de Dieu, il y a des maxi-volontés de Dieu, et puis il y a la volonté de Dieu, et pour cela, il faut lire absolument toute la Bible. En lisant la Bible, Dieu va corriger aussi mes itinéraires, hein, parce que parfois je cours, et puis pouf, je me plante, parce qu'il y a mon ego, parce qu'il y a ma chair qui est là, mais Dieu veut juste recalibrer mon parcours, et heureusement qu'il le fait, non ? C'est formidable quand on peut s'éviter le mur, merci Seigneur, hein. Mais on sait, en tant que chrétien, que c'est aussi un chemin étroit. Quand on regarde le monde qui vit bien, même mieux que nous, des fois, qui sont heureux, grosse voiture, je ne sais pas quoi. Et puis nous, là, sur notre petit chemin, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Enfin, c'est complètement faux, mais bref, c'est l'impression qu'on a des fois. Hein. Mais il faut savoir que c'est un petit chemin, mais il va mener à la gloire. C'est toute la différence. Il y a les grands chemins, mais ils mènent en enfer. Et ça, c'est bien triste. Il vaut mieux être peut-être un peu frustré dans sa vie, mais si vraiment on veut faire la volonté de Dieu, on ne sera jamais frustré, normalement. Et si on est sur ce petit chemin, il faut juste regarder au bout. C'est la gloire qui nous attend. Et là, une fois qu'on est dans la gloire, on dira quand même, ça valait le coup, je crois. Le deuxième guide par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et je suis content qu'il en ait parlé tout à l'heure, Rémi. Dans Galates 5, 16 à 17, il est dit, « Je dis donc, marchez hein, selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a un de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Le Saint-Esprit et la chair ne cohabitent pas ensemble. Hein. C'est pas, y en a un qui loue l'appartement à l'autre. Ils sont en train, c'est comme deux aimants, hein, ça s'oppose. On veut les mettre dans l'autre pôle. Ils s'éloignent. Hein. Quand on veut laisser faire la chair, ben, le Saint-Esprit est obligé de reculer. Si on veut laisser faire le Saint-Esprit, la chair recule. Et ça va être comme ça jusqu'au bout de notre vie, hélas. Mais il est dit, marcher selon l'Esprit. C'est laisser le Saint-Esprit exercer son influence en moi. Je peux arrêter son influence en moi. On ne va pas perdre le Saint-Esprit, il est toujours là. Mais je peux vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Luther écrivait, « Le Saint-Esprit est envoyé par la parole dans le cœur des croyants. Quand par l'écoute de la parole prononcée, nous recevons une ferveur et une lumière intérieure par lesquelles nous sommes transformés et nous devenons de nouvelles créatures. Par cela, nous recevons aussi un nouveau jugement, de nouveaux sentiments, une nouvelle motivation pour agir, transformation qui fait dans notre vie. » Cette transformation et ce nouveau jugement ne sont pas l'œuvre de la raison ou le résultat de la puissance de l'homme, mais le don et l'opération du Saint-Esprit qui accompagne la parole annoncée, qui purifie notre cœur par la foi et qui produit en nous des élans spirituels. De dire simplement que des fois on voudrait vivre la sanctification, mais comment on la vit ? Eh bien, ça commence par la lecture de la parole de Dieu. Dieu veut nous sanctifier par son esprit, mais il va aussi employer la parole de Dieu pour commencer à faire ce travail. Vous n'entendrez jamais l'esprit dire « Oh, Emmanuel, il faut changer maintenant ». Ça ne marche pas comme ça, hein. Vous n'avez pas des SMS de la part du Saint-Esprit. Mais il est en accord complètement avec la Bible. Et donc forcément, en lisant la Bible, le Saint-Esprit va travailler dans mon cœur et va agir pour que je change d'attitude. Il veut briser la chair. Il ne veut pas la cajoler, il veut la briser. Ils vont éloigner toutes ces choses. Parce qu'il veut créer en nous la sainteté. Et si nous vivons dans la sainteté, si nous vivons justement dans la volonté de Dieu, ben, on s'égarera beaucoup moins dans notre parcours. La Bible parle de ce guide comme un consolateur. Quand ça ne va pas, Jésus-Christ, enfin le Saint-Esprit veut vous consoler. C'est génial, non ? Allez dans la rue et demandez à quelqu'un de vous consoler. Allô, police ? Il y a un truc bizarre là. Mais le Saint-Esprit peut vous consoler là où vous êtes dans votre travail. Quand ça ne va pas, hein, moi j'allais des fois dans le frigo là où j'étais, et je priais, je m'énerve le directeur. Mais il console, il console. Il appelait aussi l'avocat. Ah, gratuit. Avocat gratuit. Quand on a péché, quand Satan nous accuse de notre péché, et il a bien raison, hélas, ben on a un avocat et on dit, voilà, ben pardon pour mon péché, et restaure-moi dans ma vie. C'est un éducateur aussi, quelque part, puisqu'il veut nous sanctifier, nous transformer, transformer notre intelligence, notre logique, notre façon de penser, parce que souvent elle n'est pas bonne. Et quand on commence à penser comme Dieu, on commence à faire la volonté de Dieu, forcément. Et quand on est dans la volonté de Dieu, ben on a un privilège d'aller faire une bonne route, tout simplement. C'est quand même bien quand vous savez le plan, quand vous savez où on va. Bonjour, asseyez-vous, entrez, ne vous gênez pas. Donc ce consolateur est un guide, un avocat, un éducateur, et nous avons la joie de pouvoir aller dans la bonne direction. Le chrétien doit marcher avec des bons guides. Alors il y en a deux, il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais il y a deux choses que Dieu nous a laissées, la parole et le Saint-Esprit. Les deux agissent ensemble, travaillent ensemble, et si je veux marcher comme la Bible nous demande de le faire, si je veux me laisser guider correctement, ben je dois tout simplement laisser agir dans ma vie. Si je ne prends pas le temps de mieux connaître la parole de Dieu, de me laisser transformer par le Saint-Esprit, je ne vais jamais grandir spirituellement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous êtes toujours au lait, et si on ne boit que du lait, on ne grandit pas. Troisième chose qu'on voit pour marcher, hein, en tant que chrétien dans la vie chrétienne, il faut un bon modèle. Alors, ne le regardez pas chez moi, hein. C'est dans la Bible. J'essaie, mais je ne suis pas parfait. Mais Éphésiens 5 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si je veux marcher, j'ai besoin d'un modèle. On a toujours besoin d'un modèle, d'un mentor, on pourrait dire quelque part, quelqu'un qui va m'aider, que j'ai envie d'imiter tout simplement, pour aller de l'avant. Et c'est Jésus-Christ, évidemment, le modèle par excellence. Le modèle de la vie de Jésus, par exemple, démontre, si on prend le temps de lire les évangiles, c'est pour ça que je demande toujours de lire les évangiles au début, parce qu'on va découvrir qui est Jésus. Et Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de philosophie ou je ne sais pas, il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers le Père, c'est évidemment au travers de Jésus-Christ. Quand je connais Jésus-Christ, je sais qu'il y a une seule direction unique pour aller vers le salut. Ça fait déjà du bien de connaître ça dans notre vie. Si j'essaie de m'intéresser à Jésus-Christ, en résumé, il dit qu'il est le bon chemin. Mais en même temps, il dit que le chemin n'est pas toujours facile. Être chrétien, on voit bien dans la vie de Jésus, c'est pas toujours simple, dans la vie de ses disciples. Parce qu'aller dans la bonne direction, des fois, ça passe aussi par l'épreuve. Jésus allait dans la bonne direction en allant vers la croix. Seulement, c'était une sacrée épreuve pour lui. Il aurait pu dire à un moment, moi, je n'ai pas envie d'aller me faire clouer, je vais prendre un autre chemin. Je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Et moi, en tant que chrétien, des fois aussi, le bon chemin, et on la voit arriver des fois à l'épreuve, c'est ça le bon chemin. Ça passe par l'épreuve. Et l'épreuve, on le sait, transforme notre vie, produit la sanctification aussi, mais c'est ça, des fois aussi, le bon chemin. Dès qu'on a l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait ? On peut, on l'évite. Heureusement que le Seigneur nous fait revenir dans le bon chemin, bien souvent. Une autre chose qu'on peut apprendre de Jésus, c'est que l'amour triomphe de tout. J'imagine ces pharisiens, quand ils étaient devant Jésus, qui était crucifié à la croix, ils disaient « Yes, on a gagné, on l'a vaincu. » Il est mort, et puis il ne veut plus embêter le peuple avec tous ses enseignements, parce qu'il commençait à nous piquer un peu du monde. Mais trois jours après, ils ont dû faire la tronche, à mon avis, Et ils ont réalisé que l'amour triomphe de tout. Et Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité aussi. Et parce qu'il est ressuscité, il nous protège du grand crash, on va dire, de l'enfer. Il nous permet d'être sauvés, tout simplement. Alors à moi de prendre modèle sur lui. Et pour cela, il faut que j'apprenne à le connaître. Quand je veux imiter quelqu'un ou que quelqu'un devienne mon mentor, je vais aller à côté de lui, je vais me laisser enseigner, on est bien d'accord. Je ne vais pas essayer de deviner qui il est. Je vais prendre le temps d'apprendre à le connaître. Parce que pour l'imiter, il faut que je sache qui il est, ce qu'il fait, comment il agirait dans ma vie. Je dois apprendre aussi ses réflexes. Parce que dans des situations données, Jésus a réagi d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Et c'est des bons enseignements pour moi. Parce que peut-être face à l'ennemi, face à des gens qui sont en colère après moi, qu'est-ce qu'on a envie de faire en premier ? Quelqu'un vous hurle dessus, qu'est-ce que vous faites en premier, généralement ? Sortez le petit marteau. Non, il est comme ça. Ça, c'est le premier... Dites pas que vous n'êtes pas comme ça, on est comme ça, ça nous bouffe. Mais le Seigneur nous a appris qu'on peut être apaisé, répondre à notre ennemi avec amour. Et ça, c'est un réflexe que le Seigneur veut mettre aussi dans notre vie. Il veut gérer notre vie, les situations de la vie, donner une espèce de code de la route spirituelle, on pourrait dire, pour que l'on sache marcher comme lui marchait autrefois. Et évidemment, il veut apprendre à ce qu'on imite son amour. Alors là, je crois qu'il y a un sacré travail. Vous aimez comme Jésus-Christ aime ? Aussi parfaitement. Je vais vous mettre une petite baffe, là, comme ça, pour voir si vous avez m'aimé. Non, je ne vais pas vous mettre des baffes, attendez. Mais si c'est celui que je veux imiter, si c'est mon mentor, je vais apprendre à vivre comme lui. Et lui, il en a pris des baffes, des coups de fouet. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a claqué les doigts, les anges sont venus, ils ont détruit tout. Il aurait pu, Il n'a rien fait. Il s'est laissé faire. Des fois, il s'est laissé faire. Des fois, il ne s'est pas laissé faire non plus. Mais il faut que j'apprenne à imiter l'amour de Jésus-Christ pour m'aimer moi-même déjà, mais aussi pour aimer les autres. Le verset d'Éphésiens dit « Marchez en tant qu'imitateur de Dieu ». Et si je veux imiter Dieu, c'est parce que j'ai une nouvelle identité en Christ. Je ne suis plus comme avant, je ne marche plus dans les ténèbres comme avant. Aujourd'hui, sur ma pièce d'identité, alors c'est invisible, mais c'est écrit « Je suis citoyen du ciel ». Enfin, moi, je ne sais pas vous. Ouais. Ça ne vous parle pas trop. Vous avez un pied dans le ciel déjà, ce qui paraît dans la Bible. Dans Éphésiens, il est dit. On est citoyen du ciel, ça veut dire que vous partagez un petit moment, on pourrait dire, sur la terre, mais votre grande maison, elle est là-haut. Ah ouais. Mais c'est bien de prendre le temps de réaliser ça. Mon identité a complètement changé. Souvenons-nous de qui nous sommes. Parce que si je veux marcher, souvent on avance dans la vie chrétienne en disant « Ah, je suis un pauvre pécheur. » Mais si on se souvient de qui on est réellement, ça change complètement la marche. Et là, une petite histoire en parlant d'un aiglon hein, qui se croyait une dinde. Alors, les Amérindiens racontent qu'un jeune guerrier tomba un jour sur le nid d'un aigle royal. Poussé par l'envie de faire une farce, il prit un œuf du nid et le posa dans le nid d'une dinde. L'œuf éclos et l'aiglon grandit en même temps que la couvée de poussins. Se croyant identique aux poussins autour de lui, hein, comme les dindes, il se comporta comme eux. Il se mit à glousser, à caqueter, à gratter le sol et à la recherche de graines et d'insectes pour se nourrir. Il ne s'éleva jamais plus haut que quelques mètres au-dessus du sol, puisque les dindes sont incapables de voler plus haut. Les années passèrent. Un jour, l'aiglon étant en train de gratter la terre en compagnie d'un de ses compagnons d'Inde, quand une ombre passa au-dessus d'eux, ils levèrent la tête et virent très haut dans le ciel une forme élancée d'un grand oiseau qui se laissait porter par les courants du vent. « Quel bel oiseau !» s'exclama l'aiglon. « C'est un aigle, lui répondit la dinde en contemplant le superbe oiseau. Un aigle royal. C'est le roi des airs. Aucun oiseau n'est comparable à lui. » Puis il baissa le regard et ajouta « N'y pense plus. Tu ne lui ressembleras jamais. » Un aiglon. Et les deux volatiles ont gratté le sol de plus belle. L'aiglon élevé avec les dindes n'a plus jamais songé à cette forme majestueuse. D'après la fable, il est mort comme il a vécu, ne s'élevant jamais au-dessus de l'existence d'un vulgaire poulet des prairies. Il y a une histoire là pour nous, c'est que bien souvent, on est un aiglon et on se contente d'être une dinde. Excusez-moi la comparaison, hein. On ne voulait pas, mais c'est l'histoire qui le dit. Et en fait, on pourrait voler dans très haut. On va dire spirituellement, on s'entend, hein, vous n'allez pas vous envoler, mais croître spirituellement, vraiment mettre cette identité en Christ pleinement en nous, et on se contente d'aller picorer par terre tranquillement. C'est bien triste quand même. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous dans notre vie. Je suis enfant de Dieu. Ça vous parle ? Prenez le temps de réfléchir à ça, parce qu'on le dit tellement rapidement. Enfant de Dieu, donc Dieu, il est tout-puissant, il a créé le monde. S'il a envie, il peut détruire la terre maintenant. C'est mon papa. C'est génial d'avoir un papa comme ça, non ? Moi, je rêvais quand j'étais jeune que mon papa, il tape sur ceux qui m'énervent, là. Bon, Dieu ne va pas faire comme ça, on est d'accord. Mais je suis enfant de Dieu, c'est mon identité. Et comme je suis enfant de Dieu, ben, je veux imiter papa. Parce qu'à ce qui paraît, les enfants imitent les papas. Alors, ils le font au début, après, mais nous, on va changer quand même d'attitude. Hein. Nous, on veut imiter notre Père tous les jours, parce qu'on a envie de faire honneur à notre famille, c'est-à-dire à l'Église, tout simplement. Imiter, c'est vivre comme Dieu a compassion pour moi. Dieu a de la compassion pour nous, non ? Heureusement, on serait où autrement ? Il a de la miséricorde pour moi, tous les jours. Et des fois, il va se dire, il va être fatigué d'avoir de la miséricorde pour nous. Hein. Il est juste aussi avec nous. Il est plein d'amour. Et c'est ce que je veux vivre, moi, en tant qu'enfant de Dieu, avoir de la compassion pour ceux qui m'énervent, de la miséricorde pour ceux qui sont mes ennemis, et être juste malgré tout, là où je suis, même si parfois ben, je dois perdre mon emploi ou quoi que ce soit, mais je veux ressembler tout simplement à mon Père. Et évidemment, je veux aimer quiconque est à côté de moi. C'est donner envie aussi aux autres de faire partie de cette famille. On est fiers d'être enfant de Dieu ? Oui, dans l'Église, ouais. On va aller dans la rue, je vais voir un peu les visages. Non, on sera un petit peu moins. Hein. Je suis aussi imitateur de Dieu à cause de mon rang. Hein. Nous sommes dans une équipe, on pourrait dire. Hein. On avait une équipe de foot tout à l'heure sur l'image, mais on est dans une équipe et celle de Jésus-Christ. Parce qu'on est appelé ambassadeur de Christ. Et quand on est ambassadeur, on représente un pays, on représente, on pourrait dire, une famille, on représente quelqu'un. Et ma mission, d'après ce texte de Corinthiens 10, c'est que je dois annoncer la réconciliation. Je dois dire aux gens, vous savez que Dieu est en colère après vous ? Et que vous risquez d'être éloigné de lui pour l'éternité. Mais Dieu veut se réconcilier avec vous au travers de Jésus-Christ. Christ a prêché ça. Il a parlé. Il a dit, vous pouvez être réconcilié avec le Père. Il faut simplement se repentir. Et parfois, bah, ça va demander aussi du sacrifice pour nous. Parce que annoncer l'évangile, des fois, c'est simple. Des fois, bah, ça coûte. Alors nous, en France, ça va. On n'a pas trop de problèmes, encore que. Mais si vous êtes dans d'autres pays, bah, annoncer l'évangile, c'est la prison peut-être, c'est la mort. Ça coûte quelque chose, tout comme Jésus a accepté les coups quand il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il a accepté la croix, on n'a pas besoin d'aller à la croix, nous, mais il y a des fois des sacrifices à faire pour que cette bonne nouvelle soit annoncée. Et tout ça parce que je suis aussi enfant de Dieu, parce que c'est mon rang. Donc un bon modèle, et j'espère que c'est Jésus-Christ votre modèle, offre une qualité de marche, mais en même temps qui va honorer Dieu. Plus je connaîtrai le modèle, plus je vais l'imiter. Et plus j'imite Jésus-Christ, plus j'honore le Père, tout simplement. Et pour marcher, il faut une bonne motivation. Hein. On l'a dit, quand on va dans les Alpes et qu'on a envie de marcher, vous n'allez pas vous planter dans les Alpes sans savoir où vous allez. Il y a un objectif. Vous avez décidé d'aller vers un endroit. Et vous êtes motivé. Vous aimez marcher ? Courir ? Dormir ? Il faut une motivation pour marcher en Christ. Et ça, c'est bien souvent le problème, parce qu'il y a un moteur dans cette marche avec Jésus-Christ. D'abord parce que nous l'avons reçu. Dans Colossiens 2, 6, 7, il est dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien là, souvent on s'arrête là, j'ai été sauvé. » Il dit « Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. » Il y a une motivation, d'abord, c'est d'avoir été reçu, d'avoir été sauvé. Vous êtes content d'être sauvé ? Vous savez, les anges là-haut, hein, quand ils sont dans le trône, à ce qui paraît, ça fait un bruit pas possible. Enfin, faites pas autant de bruit, s'il vous plaît. Mais hein, on devrait être un peu plus motivé de dire « je suis sauvé ». C'est extraordinaire. La grâce est gratuite, mais le problème, c'est que bien souvent, ben, nous vivons en profiteur. Je suis sauvé. C'est réglé. Ah, je vais au ciel, puis tant pis pour les autres. Je profite de ma grâce, tout simplement. On peut vivre en tant que profiteur, en tant qu'opportuniste aussi, hein, hélas. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Il dit que nous sommes sauvés pour marcher. Hein, on l'a dit plusieurs fois, il y a plein de versets qui disent marcher. Il dit, vous avez été sauvés, mais pour marcher. Vous avez été sauvés pour pratiquer des œuvres qui ont été préparées d'avance. Hein, dans Éphésiens, encore une fois, il nous dit, vous êtes sauvés pour marcher, de progrès en progrès, de témoignage en témoignage, de service en service. Je suis chrétien, c'est pour agir, être en mouvement, hein, bouger tout simplement avec le Seigneur. La marche en Christ fait partie du forfait salut. On parle souvent de forfait, alors on a le droit au téléphone gratuit ou un peu moins cher, mais dans le forfait salut, il y a aussi cette marche en Christ. Ce n'est pas une option. Souvent on se dit, on va aller tranquillement grandir avec le Seigneur, hein, pas trop vite, parce qu'on se dit c'est une option dans notre vie. Mais quand on lit la Bible, il est dit que nous sommes esclaves de Christ. Vous avez déjà vu un esclave qui dit à son maître, « Oh, aujourd'hui je suis fatigué, là. Pas envie d'aller travailler. » Qu'est-ce qu'il fait le maître ? Il vous dit oui, généralement. Mais c'est la même chose si j'ai compris que je suis esclave de Christ, en étant ami aussi de Christ, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que le Seigneur a le droit, quelque part, de me faire avancer. Et il attend de moi des actes, hein, dans ma vie chrétienne. Il attend que j'agisse. Mais pour agir, il faut avoir une bonne motivation, on l'a dit. Et bien souvent, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui me motive dans la vie chrétienne pour avancer. Qu'est-ce qui pourrait me motiver ? Qu'est-ce qui vous motive pour avancer dans la vie chrétienne ? Eh ben, pas très motivant tout ça.
Le désir de grandir.
Pardon ?
Le désir de croître.
Le désir de croître ?
La compassion.
La compassion de Dieu ou ta compassion pour moi ?
Non, pour ceux qui autrui, se perdent.
Autrui ? Ouais.
Ceux qui se perdent.
Ouais. Quoi encore ? Oh !
L'obéissance.
Pardon ?
L'obéissance à Christ et à un autre.
Enfin, ouais, mais ça, c'est plutôt moi. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose en Dieu qui devrait me motiver. Pardon ?
L'amour de Dieu pour moi.
Ouais. Et qu'est-ce que ça produit, l'amour de Dieu en moi ?
L'amour pour les autres.
L'amour pour les autres, oui. De la reconnaissance. Vous savez, vous êtes sauvés. On est appelé héritier, co-héritier de Christ. On ne dit pas merci ? Et plus je commence à saisir qui je suis, mon identité, où je vais, ce que je possède en Christ, mais plus j'ai envie de dire merci, non ? Moi, j'ai envie d'avancer parce que je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu me donne. Alors, vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre, mais c'est la reconnaissance. Si je n'ai pas compris qui je suis et où je vais, ma vie chrétienne sera fade, en fait. C'est ça le problème. Mais si je suis reconnaissant tous les jours d'être appelé enfant de Dieu, d'être sauvé, d'être co-héritier, alors là, ça me pousse. C'est un moteur dans ma vie. J'ai envie de remercier le Seigneur, et là, forcément, je vais commencer à me mettre, à marcher, à plaire au Seigneur, à agir selon son désir. J'accepte aussi le rythme de Christ. Alors, il est différent pour chacun, mais il y a un rythme aussi dans la vie du chrétien pour qu'il commence à marcher. Il y a des chemins aussi, on l'a dit, et il y a une destination qui sera évidemment le ciel. Mais il faut que je sois reconnaissant de mon salut pour que j'avance. Sinon, ça ne marchera jamais. On a dit, il y a un objectif de la marche. Colossiens dit être fondé en lui, on pourrait dire se développer et achever la course, hein, en résumé. Fondé en lui, c'est, on pourrait dire, finir la structure par laquelle la fondation a été posée. Jésus est mort sur la croix, il a posé la fondation dans ma vie, quand je l'accepte. Maintenant, il n'y a pas qu'une fondation sur une maison. Enfin, je ne sais pas, vous avez construit votre maison juste avec la fondation. Vous faites quoi après ? Les murs, les fenêtres, les portes, enfin. Voilà, c'est une maison, sinon c'est pas la peine de mettre des fondations. C'est pareil dans la vie du chrétien. Jésus est ma fondation, maintenant il veut bâtir dessus et faire une belle maison avec moi. Être fondé en lui, c'est bâtir sur Jésus le fondement d'une nouvelle vie. Quand je deviens chrétien, j'ai encore toutes les casseroles du passé. Hein. Elles sont là, et elles vont peut-être même durer très longtemps. Mais au fur et à mesure qu'on est transformé, qu'on bâtit cette maison sur le fondement de Jésus-Christ, la vie change. On a une nouvelle vie à ce qu'apparaît en tant que chrétien. Tout a disparu du passé. Enfin, je le souhaite en tout cas. Tout a changé. Et donc, cette nouvelle vie, ça commence à la nouvelle naissance, on est bien d'accord, quand je deviens chrétien. Mais elle se bâtit maintenant, de plus en plus. Et c'est ce que le Seigneur veut faire en moi. C'est le désir aussi de l'achever. On peut commencer en tant que chrétien, on est tout euphorique, hein, comme les papillons au début, quand on est chrétien, on voit la nouvelle vie, c'est beau, c'est magnifique, je suis pardonné. Puis 10 ans après, un papillon, il en a marre hein, de voler. Et puis, ben, sa maison, elle est à mi-hauteur, là, et puis il y a un deuxième étage à faire normalement, mais je suis fatigué. Hein. Puis je vois les autres chrétiens qui font exactement comme moi, je me dis, pourquoi je vais me fatiguer d'aller plus loin ? Et on se contente, comme on l'a dit, de ne pas achever tout simplement ce que le Seigneur veut faire en moi. Quand on voit la vie de l'apôtre Paul, il a achevé l'œuvre en l'apôtre Paul, mais c'est passé par bien des tourments et des difficultés. Mais le Seigneur veut aussi achever cela dans notre vie. C'est arrivé à bon port, on va dire, dans la gloire de Christ, mais un jour on se retrouvera devant Christ et il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ, et c'est là où on va voir, il va nous évaluer selon le bien et le mal qu'on a fait dans notre vie, selon cette maison, elle a été construite ou pas, complètement comme lui le voulait. On va peut-être rougir des fois, hein. On va rougir certainement devant lui, parce qu'on a fait un peu les paresseux, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut dans notre vie. Il y a peut-être des missionnaires ici, hein, qui vont aller en Corée du Nord. Ouais, je motive ce matin. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous rigolez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Moi, quand j'étais au début dans l'église, je n'ai jamais pensé être pasteur. Tu parles, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Hein. Mais peut-être que c'est le plan, ce que Dieu veut achever dans la vie des uns et des autres. Alors, on n'est pas obligé d'être missionnaire en Corée du Nord. On ne le souhaite pas, de toute façon. Mais il y a d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que pasteur, missionnaire. Il y a d'autres œuvres à faire. Il y a des gens qui évangélisent. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui servent dans l'église. Il y a mille et une choses à achever en tant que chrétien dans notre vie. Il dit aussi s'enraciner en Christ. On pourrait dire de notre manière sécuriser la marche. Parce que quand on part, on aime bien partir en sécurité. Et il dit c'est avoir des racines solides. Les arbres, ils ont des racines solides. Nul arbre peut tenir s'il n'a pas des racines solides. Dès qu'il y a une tempête qui passe, l'arbre tombe, tout simplement. Et le problème, c'est que le chrétien va aussi connaître des tempêtes. Tout va bien aujourd'hui ? Ah oui, tout va bien. Oh, on a une petite difficulté. Vous n'avez pas encore un cancer. Enfin, je ne vous le souhaite pas non plus. Vous n'avez pas un enfant qui est décédé. Ça arrive. Christ veut qu'on s'enracine par rapport à ces tempêtes. Et on peut s'enraciner que dans la connaissance de Jésus-Christ, que dans la connaissance de la parole de Dieu, que dans la connaissance de la théologie. Et c'est là ce qui me permet de m'agripper quand les tempêtes de la vie vont arriver. Parce qu'il y a tempête, on va dire, de la vie, mais il y a tempête théologique, il y a tempête de faux docteurs, il y a des loups, il y a toutes ces choses-là aussi qui sont là. Et nul arbre sans racine ne peut tenir. Il faut vraiment nous plonger profondément notre vie en Jésus-Christ. C'est pas que connaître la théologie que plonger, mais c'est aussi la pratiquer, la vivre, l'accepter dans ma vie. Pour connaître un tas de choses. Mais si on ne le vit pas, si on ne le pratique pas, ça ne sert à rien. C'est s'affermir par la foi aussi, devenir musclé spirituellement. Hein. Vous êtes musclé ou vous faites un peu des pompes spirituelles de temps en temps ? Ah, on n'aime pas le sport, hein. Moi j'aime pas le sport. Mais bon, le Seigneur nous demande de devenir musclé spirituellement. S'affermir, c'est rendre sûr, c'est rendre ferme quelque chose, c'est avoir une solidité spirituelle. J'ai envie de dire, c'est devenir un professionnel de la marche. Alors, on ne sera jamais professionnel de marche humaine, on va dire, mais on peut devenir de mieux en mieux dans la foi, dans cette marche de la foi. Un chrétien qui est endurant, parce que marcher, ça demande de l'endurance. Des fois, on marche, on est prêt à faire 2 km, et après, on en est marre. Mais le Seigneur a dit, maintenant, il faut continuer, il y a encore 20 km qui t'attendent. Alors, il faut devenir endurant. Alors, ça va faire mal aux jambes au début, ça va faire mal à la foi au début, mais on s'habitue. Les muscles s'habituent, la foi s'habitue aussi, et on va avancer avec le Seigneur et devenir ce professionnel de la foi. Mais ça peut se faire, et on l'a dit tout à l'heure, qu'avec l'étude de la Bible, la vie de prière, suivre les plans de Dieu, tout simplement. C'est tellement basique, ces choses-là, on le sait tellement, mais on le fait très rarement, hélas. Et plus je vais m'enfoncer dans la parole de Dieu, plus je vais découvrir Dieu forcément et ce qu'il est réellement, ce qu'il peut réellement pour moi, plus je vais m'enraciner évidemment dans ces écritures, plus ça va me donner envie de prier, pas que pour moi, comme on est en train de le voir le vendredi soir, mais pour les autres, pour adorer Dieu, pour le louer, pour intercéder. Et puis comme je suis dans cette attitude, ben forcément maintenant que j'ai vu ce Dieu magnifique, eh ben j'ai envie de le suivre. Parce que j'ai bien compris que mes chemins à moi sont bien souvent tortueux, boueux, alors que ceux de Jésus-Christ, même s'ils passent des fois par la tempête, mais ils vont là où il faut et dans la volonté réelle de Dieu. Et c'est suivre ses plans, tout simplement. L'amour du Christ, pour moi, donne un élan puissant à ma marche chrétienne. Si j'aime peu, si j'ai compris que j'étais pardonné peu, j'aime peu, nous dit la Bible. Et forcément, si j'aime peu, si je me sens pardonné peu, je n'ai pas envie de marcher beaucoup. Mais si j'ai compris que j'étais vraiment aimé, que quelqu'un est mort à ma place, qu'il a pris ma place surtout, hein, imaginez-vous sur la croix, en train de hurler, de crier à cause des clous, à cause de la douleur. Hein, c'était ma place à moi, ça. Et Jésus l'a pris pour moi. Et il a démontré là tout l'amour qu'il a pour moi. Et comment ne pas être reconnaissant devant cet amour-là? Et parce que justement, je vais être reconnaissant, et bien là, le moteur de la marche commence à se mettre en marche. Et je vais me mettre à avancer avec le Seigneur. Et regarder à la croix tous les jours. Hein. Il ne s'agit pas de faire une fixation, on se comprend bien. Mais regarder à cette croix et à l'amour de Dieu pour moi tous les jours. Et vous verrez que d'un seul coup, eh ben, vous mettrez en marche, tout simplement. Pour terminer, alors, c'est une question que vous posez dans votre cœur, mais comment se passe votre marche chrétienne? À quelle vitesse vous êtes en train de marcher en ce moment? Posez-vous la question. Par rapport à ce qu'on avait dit au début, la vitesse de votre marche détermine aussi l'amour que vous portez à Jésus-Christ. Si je marche lentement dans ma vie chrétienne, si je n'avance pas, c'est que Jésus, je l'aime bien, mais... ouf, voilà. Par contre, si j'ai vraiment envie d'avancer, ça démontre que j'aime vraiment Jésus-Christ. On voit quelqu'un à sa marche, et on voit ce qui se passe au fond de son cœur. On l'a vu, la Bible nous rappelle qu'il faut marcher avec Christ, se laisser guider par sa parole et par son Saint-Esprit. Mais marcher signifie aussi action et progrès. On peut marcher tranquillement, nous promener, mais je ne pense pas que c'est une promenade que le Seigneur nous propose. C'est plutôt une vraie marche active qui va avancer de progrès en progrès. Vous savez, personne ne peut marcher s'il reste sur place. Sauf si vous allez sur un tapis roulant à Paris, dans les métros, vous pouvez marcher, mais sur place. Mais ça, ça ne fait pas avancer le problème. Le Seigneur veut qu'on avance tout simplement. Alors, sans vouloir refaire la politique de début, hein, alors en marche, sans vouloir... hein, mais... suivons Jésus-Christ dans ses pas sur cette route finalement qui nous mène à la gloire. Vous savez, un pas après l'autre, c'est le paradis qui nous attend, c'est d'être avec Jésus-Christ pour l'éternité. C'est pas génial, hein? Nous, on regarde simplement le sol et toutes les difficultés de la vie, mais c'est un pas qu'on a fait de plus pour entrer dans la gloire. Le Seigneur nous aide à marcher et à marcher de plus en plus vite avec lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau avec une nouvelle vie, avec la chance d'avoir pu être graciés. Autrefois, nous étions ténèbres, aujourd'hui, nous marchons dans la lumière et nous voulons te remercier d'abord de l'éclairage que tu as mis dans notre vie. Merci de nous avoir convaincus de notre péché. Merci de nous avoir convaincus que tu es le seul sauveur aussi. Merci de nous avoir convaincus que tu es le seul chemin aussi sur lequel nous devons marcher. Mais tu nous connais, nous avons le pas lourd bien souvent, un peu fainéant. Apprends-nous à considérer pleinement ton amour, tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour remplir notre cœur de joie, d'être cet enfant de Dieu, d'avoir un tel papa. Et au travers de cet amour, ben, donne-nous de la reconnaissance, la joie de nous mettre en marche, de progresser spirituellement, de dévorer ta parole, Seigneur, de jamais nous priver de la prière, de laisser le Saint-Esprit agir là où des fois nous luttons bien souvent, il nous veut du bien. Seigneur, que toutes ces choses se mettent réellement en marche dans notre vie et que nous puissions tout simplement t'honorer au travers d'une vie qui est sanctifiée, qui est transformée, qui va avoir un impact sur nous-mêmes, mais aussi un impact pour et la vie d'Église et pour ceux que nous allons fréquenter tous les jours. Fais-nous briller, Seigneur, dans ces ténèbres et que ceux qui cherchent justement cette lumière, qui tâtonnent dans le noir pour l'instant, ben, puissent trouver des repères, puissent trouver cette église, puissent trouver des chrétiens qui les conduisent vers ta parole et qu'eux aussi puissent naître de nouveau et à leur tour devenir des lumières. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour cette marche que tu as mis en nous. Merci parce que c'est toi qui vas nous aider encore, malgré tout, d'aller jusqu'au bout, jusque dans la gloire, Seigneur. Merci pour toutes choses. En Jésus-Christ. Amen. Amen.